affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Voici quelques jours, s'est ouvert au Grand Palais une exposition consacrée à Michael Jackson, ou plus précisément à l'influence du roi de la pop sur l'art contemporain. Des peintures d'Andy Warhol aux photographies de David Lachapelle, les œuvres d'art rassemblées l'attestent. 10 ans après sa mort, Michael Jackson est plus que jamais un artiste iconique et le support d'une mythologie très contemporaine. C'est plus précisément cet aspect qu'expose l'académicien Marc Lambron dans son ouvrage rédigé en marge de l'exposition, sobrement titré « Vie et mort de Michael Jackson ».« Vie et mort de Michael Jackson », ce titre semble emprunté à une hagiographie de saint. Mais comme ne manque pas de le rappeler l'auteur, la vie de Michael Jackson peut se raconter comme celle d'un saint, mais aussi comme celle d'un démon. Plus que tout autre, Michael Jackson est dans l'ambivalence. Artiste loup-garou, il se tient en lisière de toutes les catégories. Ni vraiment homme, ni vraiment femme, ni vraiment noir, ni vraiment blanc. Pas tout à fait adulte, toujours enfant, il s'est ingénié à brouiller les pistes, faisant de sa vie un labyrinthe halluciné. Mais par chance, nous avons aujourd'hui un guide d'exception pour nous mener dans les méandres de sa folie, de son génie, car nous avons la chance de recevoir, vous l'avez deviné, Marc Lambron dans notre studio. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous en prie. Bonjour.
Tout d'abord, nous expliquer la genèse de l'ouvrage. Ceux de nos auditeurs qui vous connaissent, ils sont nombreux, vous attendez plutôt sur un sujet autour, par exemple, du rock, s'il s'agissait de musique, et là, vous voilà réalisant un ouvrage, d'ailleurs, qui n'est pas vraiment une autobiographie, pas vraiment un essai, une sorte d'autopsie de Michael Jackson. Pouvez-vous nous expliquer cela ?
Oui. Ah bah, l'autobiographie de Michael Jackson, il n'y a que lui qui pourrait la faire, ou peut-être d'ailleurs précisément les artistes qui, dans ce patchwork qu'est cette exposition, rassemblent ou dispersent, on ne sait pas, des morceaux de son corps. Alors, l'origine du livre, au fond, c'est l'origine de pas mal de mes textes. Comme je suis depuis 30 ans journaliste, je donne des chroniques, essentiellement au Point. Un déclencheur d'écriture, on ne le souligne pas très souvent, c'est la commande, c'est-à-dire le fait que l'actualité, dans son côté impérieux et parfois inattendu, suscite des textes que vous n'auriez pas écrits si vous n'aviez pas été alerté ou sollicité par elle. C'est un peu ce qu'on appelle le journalisme en quelque sorte. Mais il y a aussi des ouvrages qui peuvent naître aussi d'une commande. Alors, en l'occurrence, c'est l'exposition du Grand Palais qui en donne le prétexte. Et la réunion des musées nationaux qui supervise plusieurs musées, dont le principal est le Grand Palais, a créé l'année dernière une collection intitulée « Cartel », dont le principe est de solliciter des auteurs, des écrivains, en principe, pour un essai de libre parcours, qui est d'ailleurs paramétré, c'est-à-dire c'est 100 pages avec un certain type de police de caractère, et donc un essai de libre parcours sur le thème d'une exposition. Alors par exemple, en ce moment, Adrien Goetz, qui va être reçu aux Beaux-Arts, l'Académie des Beaux-Arts, vient de signer un livre sur Miro, qui accompagne l'exposition Miro. Mathias Sénard, un livre sur la peinture vénitienne. Et donc, c'est à cet égard que j'ai été sollicité. Et les livres sont eux-mêmes des petits, on pourrait dire, des petites œuvres d'art. En tout cas, ils sont très joliment pensés, manufacturés, travaillés avec un signet, avec quelques photos, avec la réunion des musées nationaux qui s'instaure aujourd'hui éditeur littéraire, a une grande habitude de l'édition des catalogues d'exposition, par exemple. Donc ça donne un charmant livre de poche et des monographies très libres à partir d'un thème fixe qui est l'exposition. Voilà pour ce cartel et pour ce vie et mort de Michael Jackson.
Alors, lorsqu'on vous a proposé comme thème Michael Jackson, aucune hésitation ?
Aucune hésitation, parce que je trouvais ça assez stimulant, avec ce contrepoint qui est celui d'une exposition, même si ça n'est pas le catalogue de l'exposition, même si quand je l'ai écrit, je n'avais pas je ne savais pas ce qui allait être montré. C'est une exposition qui vient de Londres et qui arrive maintenant à Paris. Mais oui, j'avais envie de j'étais très stimulé par le sujet. Pourquoi ? Parce que je pense que Michael Jackson, ça a été un bruit de fond de l'époque. C'est difficile depuis 40 ans d'avoir échappé à sa musique d'une façon, ou d'une autre. Ensuite, parce que, et je m'en suis aperçu peut-être plus encore que je ne pouvais l'imaginer, c'est un cristallisateur de, d'attitude, de mythologie, en réalité, contemporaine. C'est un carrefour, c'est une sorte de maison hantée. Et le sujet Jackson, et je dirais, il est polysémique, il est multistrate, il est polymorphe. Et voilà, donc c'est un livre que j'ai écrit assez vite et dans la surprise finalement de ce que le sujet pouvait me révéler. Et dont nous allons parler, j'imagine.
Alors vous l'avez dit, être polymorphe, en transformation, pouvoir lutter en perpétuel devenir, sa vie était sous le sceau du désir d'advenir. Il n'en reste pas moins que, comme tout être humain, il a un commencement, il a des racines. Peut-être faut-il commencer par là.
Oui, parce que ça a été un cas d'enfant étoile, d'enfant star. Alors si on va rapidement sur le thème biographique, vous avez dit en effet tout à l'heure que « Vie et mort » de Michael Jackson, le titre, c'est une référence à certains livrets d'agiographie religieuse comme on en distribuait dans nos enfances. Donc en effet, il y a une ironisation de ce type de petit, d'une sorte de manuel édifiant. Sauf que l'édification n'est pas celle que l'on pourrait imaginer. Oui, alors il est né en 1958 dans l'Indiana, une ville qui s'appelle Gary, et dans une fratrie nombreuse, enfin les Jackson 5, et en réalité il y aura six garçons et deux filles, donc qui vivent dans une certaine promiscuité d'une maison de cité industrielle, mais avec un père qui, travaillant dans la sidérurgie, à 16 heures est guitariste dans un groupe de rock, et une mère qui est témoin de Jéhovah, qui travaille aussi, et c'est un enfant, les Jackson 5, les frères Jackson, sont les enfants d'un père impresario, d'un père tuteur. Parmi les mythologies ou les références qui pourront être convoquées autour de Michael Jackson, il y a Pinocchio, il y a l'univers de Walt Disney, et comme vous vous souvenez, dans le conte de Collodi ou dans le dessin animé de Walt Disney, il y a le moment où Pinocchio est prisonnier de l'affreuse Stromboli, qui est un directeur de cirque ambulant, et le mannequin, le pauvre Pinocchio, devient un être de cirque. Il y a un devenir Pinocchio, c'est un des premiers avatars de Michael Jackson, sous l'égide du père, Joe Jackson, qui dresse littéralement ses enfants dans l'idée d'en faire un groupe choral. Et l'école de Michael Jackson, entre ses 6 ans et ses 11 ans, c'est la route, c'est l'apprentissage de la chorégraphie, c'est le chant, ce sont des tournées, et c'est la férule d'un père qui corrigeait parfois ses enfants, qui les dressait littéralement au fouet. Le résultat de cela, c'est que, en 1969, les Jackson, qui deviennent les Jackson 5, sont signés par un label de musique noire très célèbre qui s'appelle Tamla Motown. Et fin 69, le premier disque qui a été façonné pour eux par une sorte de sorcier du succès qui s'appelle Dick Richards. Et ce disque sort, et immédiatement, c'est une commotion nationale aux États-Unis, avec comme consécration le passage au Ed Sullivan Show. Et je parle d'ailleurs dans le livre des images qu'on peut trouver sur YouTube, et on voit la naissance, l'acte de naissance chorale et chorégraphique des Jackson 5. Alors Michael Jackson, il a 11 ans cette année-là. On va le rajeunir de 2 années. Et c'est le début.
Déjà.
Et comme il meurt à 51 ans, on peut dire qu'entre la révélation à 11 ans et l'année 2009 où il disparaît, et il y a une durée de 40 années qui va être évidemment l'occasion de diverses mutations, parce qu'il y a un côté mutant chez Michael Jackson. Et ces 40 années, c'est aussi notre propre mémoire. Michael Jackson est une sorte de lieu de mémoire vivant qui circule sur une ligne qui va de la fin des années 60 jusqu'au début des années 2010.
Alors, puisque vous avez parlé de la mémoire, vous plus précisément, vous souvenez-vous de la première fois que vous avez entendu Michael Jackson ?
Oui, je pense que c'est une, comme tout le monde, j'ai pas fait un acte délibéré ou volontaire, mais je pense que j'ai entendu Michael Jackson autour de 1979 avec son premier album qui est un succès solo, Off the Wall, donc fin des années 70, qui coïncide d'ailleurs avec ce qui va faire la spécificité de Michael Jackson. C'est-à-dire, je pense que c'est un moment où le rock ou apparenté sort de l'âge des illusions lyriques, comme aurait dit Malraux, et entre dans celui de la manufacture. Les années 80 vont arriver, la musique sera plus usinée, plus concoctée, plus numérisée. Et ça, c'est un des aspects de Michael Jackson, c'est-à-dire qu'il y a cette énergie enfantine puis adolescente qui est absolument remarquable. Enfin, et c'est un très bon chanteur et c'est un grand danseur, et qui va être pris ou qui va être en proie à cette espèce de glaciation, de dialectique de la chaleur. C'est un musicien noir, c'est un musicien de scène. Il y a des traditions de soul music qui sont derrière, ou de funk music, ou de James Brown n'est pas loin, c'est une sorte de neveu de James Brown. Et en même temps, il va rencontrer des sorciers de la console qui ont tendance à glacer la musique avec des synthétiseurs. Enfin, c'était l'esprit du temps. C'est un des aspects de Michael Jackson. En réalité, ce qui m'a intéressé beaucoup chez Jackson, et très vite, comme vous le disiez dans votre introduction, c'est que c'est un être de lisière, c'est un être de l'indécidable, c'est un être de l'entre-deux. En effet, il est toujours partagé, peut-être de manière un peu schizoïde, entre deux postulats, entre deux pôles. C'est-à-dire, ça va être un adulte, mais qui abrite en lui un enfant. En effet, c'est un noir qui va avoir tendance à se blanchir, des pigmentations, changement d'identité. Comme Elvis Presley était un blanc qui voulait chanter à la façon d'un noir. Et d'ailleurs, Jackson épouse la fille d'Elvis Presley, Lisa Marie. Ces deux épouses seront blanches, d'ailleurs. C'est un homme, mais est-ce une femme ? Il y a évidemment des brouillages de genre. Sa musique elle-même est une musique hybride. C'est-à-dire que, comme on le disait à l'instant, il y a le socle noir, mais très vite, il va incorporer dans ses formes musicales d'autres genres, par exemple hard rock. Quand il fait venir sur un titre comme Beat It le guitariste Eddie Van Halen du groupe Van Halen, où il va chanter en duo avec Paul McCartney par exemple, un Beatle, il y a aussi une indécision ou un brouillage sur le sexe lui-même comme conception, c'est-à-dire il est probable que ces trois enfants sont des enfants là aussi de laboratoire. Le sexe est un non-sexe, et là ça va vers des problématiques assez contemporaines qui sont justement celles du transgenre, celles de la PMA ou de la GPA. Et même dans le parcours de Michael Jackson, dans ses mutations, il y a une façon désespérée, enfin de plus en plus désespérée, au fond, c'est quelqu'un qui va sortir toute sa vie du cadre anthropologique, qui ne va pas se résigner, ou qui ne peut pas se résigner à ses enveloppes successives, et notamment celles que l'âge lui impose. Pour un chanteur, par exemple, une voix qui mue, c'est même une chose tout à fait importante. Il y a toujours un alien en lui. Et cet autre de soi, c'est aussi, ça serait aussi le rêve d'une vie pérenne, voire immortelle. Et là, on peut reboucler avec les problématiques du transhumanisme qui aujourd'hui nous occupe beaucoup.
Donc, voire même du post-humanisme.
Voire voire même du post-humanisme. Donc ce mutant, à bien des égards, bon gré mal gré, est aussi une sorte de visionnaire, d'éclaireur d'un certain nombre de questions qui se posent aujourd'hui, peut-être de manière plus brûlante, plus insistante que lorsqu'il disparaît en 2009, il y a quasiment 10 ans.
Que de pistes pour la suite de l'entretien. Il faut bien en choisir une. Ce qu'il caractérise n'est pas aussi une forme de démesure, d'hubris dans cette volonté de maîtrise, d'être le créateur de soi-même. On a l'impression qu'il s'auto-accouche en permanence. Est-ce que finalement, autour de tout ce que vous avez décrit, il n'y a pas ça au centre ?
Oui, alors ça, évidemment, il y a le l'hubris, il y a le côté, il y a la mégalomanie, il y a le fait de dessiner un univers qui soit à sa seule mesure, en quelque sorte. Alors, prenons l'exemple de Neverland, qui est son domaine. Neverland est construit comme un parc d'attractions privé. Donc, c'est en réalité un lieu régressif. C'est une façon d'essayer de figer dans une perpétuelle enfance le manoir, qui est la projection, finalement, de son psychisme, ou d'une partie de son psychisme. Et ça, c'est une maladie européenne et américaine. Enfin, il a eu son Xanadu, comme dans Citizen Kane d'Orson Welles, on voit ce palais qui est une réplique du palais du Magna Hearst à Saint-Simeon, qui est une façon de dessiner par patchwork, finalement, une sorte d'identité de résidence. Mais oui, il a pas cessé d'hybrider, de coller. Il y a un aspect collage dans la vie de Jackson qui est assez moderne. Et puis, il est à la fois son propre fécondateur, si on peut dire cela, et en même temps, comme je le disais, une maison hantée. Et ce qui m'a intéressé dans le livre, c'est de voir quels sont les affleurements des strates de culture populaire américaine, pour l'essentiel, et qui font que dans ce manteau d'arlequin, si on veut tenter une sémiologie de Michael Jackson, en réalité, les pistes sont nombreuses. Et dans le patchwork, il y a beaucoup de choses qui sont mélangées, parfois de manière surprenante.
Oui, car effectivement, il est son auto-créateur, mais il utilise une matière première et à dessein, car vous le dites à plusieurs reprises, c'est par ailleurs quelqu'un de plutôt cultivé et qui a une forte connaissance de la culture américaine. Et qui, oui. On a comparé à Peter Pan, mais ça me fait penser un peu au petit Pousset qui sèmerait des petits cailloux comme des signes, pour nous égarer peut-être.
Oui, il y a une dispersion des signes. Ce qui est intéressant chez Jackson, c'est que, on va parler en anglais, il est ce que les Anglais appellent, ou les Américains, un control freak, c'est-à-dire un maniaque du contrôle, et ce maniaque du contrôle va devenir un freak, tout simplement, c'est-à-dire un monstre. Parce que des choses se dérèglent, parce que tout n'est pas contrôlé précisément par le maniaque du contrôle. Et je dirais que dans l'identité schizoïde ou multiple de Jackson, il y a la nostalgie de l'enfance. On parlait à l'instant de Walt Disney. Walt Disney est évidemment une sorte de père subliminal de Michael Jackson. On va le surnommer Bambi, par référence au dessin animé et au roman de Félix Salten. Son domaine se nomme Neverland, c'est le nom de l'île dans Peter Pan, avec la tribu des garçons perdus et Wendy. Et il a sans doute eu ses garçons perdus et ses Wendy. Il a chanté Wish Upon a Star, qui est la chanson de Pinocchio, du dessin animé dont on parlait à l'instant, et il construit son propre... Donc il y a ce côté sucré, il y a cette guimauve, il y a cette enfance synthétique dans laquelle il se complaît, et en même temps, ce personnage de Walt Disney est travaillé par des personnages d'Edgar Poe. Il y a ce fond qui est un fond assez satanique, ce fond gothique, ce fond fantastique, qui est installé dans la littérature américaine par Edgar Poe, et avec toutes les monstres, la nécrophilie dans Ligeia, toutes ces distorsions, toutes ces horreurs qui vont jusqu'à Lovecraft, hein, le auteur aussi de tératologue finalement de monstres. Et c'est assez intéressant de voir que dès l'origine, de façon ludique Et ensuite, à mon avis, de façon subie, Michael Jackson inscrit cette filiation dans le plus célèbre clip qui est celui de Thriller, qui dure 15 minutes. Et Thriller, qu'est-ce que c'est ? C'est une mise en scène de la mythologie du lycanthrope, du loup-garou, du zombie, du vampire. Donc la première page qu'il corne, la première image qu'il projette mondialement, c'est celle d'un jeune homme qui est déjà hanté par la nuit des morts vivants, par une nuit de Valpurgis, par les mythologies satanisantes. Alors il le fait de manière glorieuse et ludique autour de 1983, et je pense que les créatures des tréfonds, les créatures des abysses qu'il a en lui, vont peu à peu le marabouter et en faire cet être très étrange, ce mutant, qui est un mutant corporel, qui est un homme qui vit dans une sorte de prophylaxie effrayée, qui laisse dire qu'il dort dans un caisson à oxygène, entouré d'une ménagerie avec boas et chimpanzés, et qui donne le sentiment de se commettre dans le monde extérieur, dont il se cache dans cette tour d'ivoire étrange que finit par devenir sa psyché. Avec aussi une dimension qui est évidemment la mutation, j'allais dire la mutation moléculaire, parce que ça n'est pas un musicien drogué comme il y en a autant dans le rock, autrement dit héroïne, cocaïne, mais c'est quelqu'un qui va se régler lui-même comme une sorte de thermostat humain, c'est-à-dire qu'il y a une posologie qui est une posologie essentiellement de produits hypnotiques pour pouvoir dormir ou analgésiques, et de produits dopants, et au fil du temps il devient le transhumanisme, au fond c'est celui d'une sorte de mutant bionique, et ça va lui coûter très cher parce que l'altération du physique même de l'appareil son appareil vital fait qu'il meurt, son cœur s'arrête, il a 51 ans.
Dans ce jeu extrêmement dangereux suivi par Michael Jackson, on sait que tous les artistes ont des impresarios, vous avez parlé d'une musique plus fabriquée, on peine à tracer un petit peu la limite entre ce qui vient de lui, ce qui lui est imposé par l'industrie de l'entertainment, est-ce qu'il est vraiment acteur de sa vie, est-ce que c'est une sorte d'auto-golem qui s'échappe lui-même, mais quelle est la part des autres et de la machine? On a parfois l'impression, on a parfois un peu de compassion pour lui, on se dit mais en fait ce petit garçon il était broyé, non? Par ailleurs.
Oui, c'est le fils d'un ouvrier sidérurgiste, et on peut dire qu'il a été manufacturé, qu'il a été usiné, comme l'ont été ses frères. Cela dit, la part d'autonomie, la part d'indépendance de Jackson, la part de talent... D'abord, il y avait 5 frères Jackson, pourquoi est-ce que c'est celui-là qui se détache considérablement? Donc là, il y a ce qui lui est propre, qui est par exemple qu'il est un très prodigieux danseur, hein, et que Fred Astaire a eu le temps de le voir, il est mort en 87, Fred Astaire. Et il y a comme une passation de témoins. Ils se sont vus, il y a une lettre de Fred Astaire.
Bon, oui, qui la double.
Donc, qui la double, oui. Qu'est-ce qui fait la part de ce qui est synthétique et de ce qui est organique, enfin de la différence entre la volonté et le système? Moi, je pense qu'il y a une démiurgie de Michael Jackson. Il a, plus qu'on ne peut le penser, il a été maître à partir d'un certain moment de ce qu'il pouvait faire, de ce qu'il pouvait enregistrer, de ses propres images. C'est lui qui va chercher celui qui va être son complice, qui s'appelle Quincy Jones, pour 3 albums, Off the Wall, Thriller et Bad. Quincy Jones, qui vit toujours, avait été à Paris l'élève de Nadia Boulanger. Donc il était venu étudier l'harmonie la plus classique. Et puis, revenu aux États-Unis, il devient un producteur très, très prisé, qui travaille notamment pour Ray Charles, beaucoup de musiciens de jazz, et puis qui devient un sorcier des studios. Et c'est avec lui que Michael Jackson va concocter ses 3 disques. Et c'est vraiment une collaboration. Il n'est pas le jouet, il n'est pas l'instrument de Quincy Jones. Jusqu'à un certain moment, pendant les années du Triomphe, Jackson est maître de ce qu'il fait. Ce qui est intéressant, c'est quand ça commence à se dérégler précisément. C'est qu'au début, il est une sorte de James Brown, et à la fin, il est une sorte de Gloria Swanson dans Sunset Boulevard. Tous les clips, par exemple, parce que une dimension, alors en effet, un peu synthétique de Michael Jackson, c'est que son avènement coïncide avec MTV, c'est-à-dire le moment où les musiques sont paramétrées, 3 minutes ou 3 minutes 30, ou pour coïncider avec un récit qu'on va plaquer, donc qui va correspondre à cette musique sous forme de clip. Donc il va aller chercher John Landis pour ce clip de 15 minutes, qui n'avait jamais été fait de ce qui est Thriller, mais par exemple Scorsese est celui qui va mettre en scène Bad. Donc les projections à travers les clips, c'est-à-dire l'imaginaire visuel de Jackson, ça c'est aussi très important, au point d'ailleurs que sur scène, à partir d'un certain moment, les chorégraphies démarquent ou reproduisent celles des clips. On avait sur scène des clips en moins bien.
Et on vient en concert pour voir le clip en vrai.
Voilà, absolument. On vient voir le clip en vrai, et à partir de 1992-13, le playback commence à s'installer dans les à peu près 40% des chansons étaient chantées en playback, parce que les chorégraphies mobilisaient trop le corps, et donc ça n'était pas dit, mais c'est une dimension aussi de cette, une limite d'ailleurs à ce type de musique ou d'époque de l'artifice et de l'image de synthèse. Mais juste un mot sur ces clips, c'est assez intéressant de voir que là aussi il se dépasse ou il se projette dans divers avatars et diverses époques. Par exemple, un clip intitulé Remember the Time, le titre est assez intéressant. Le montre dans l'Égypte ancienne, où il est un danseur virtuose qui veut complaire au pharaon, qui est joué par l'acteur Eddie Murphy, et à l'épouse du pharaon, qui est jouée par Iman, le mannequin, épouse de David Bowie. Donc là, on est dans l'Antiquité, mais à l'inverse, un clip comme Scream, par exemple, il apparaît avec sa sœur Janet dans une sorte de capsule spatiale, façon Kubrick, façon 2001, Odyssée de l'espace. Donc on se promène dans les deux bouts du temps, et au milieu, un seul exemple, le clip de Smooth Criminal, avec un ballet qui évoque le film préféré de Michael Jackson, qui était West Side Story. Et pour ce clip, il s'habille exactement comme Fred Astaire dans un film de 1953 de Bandwagon, en français Tous en scène. Et donc il y a expressément un renvoi, un hommage à son parrain, en quelque sorte, Fred Astaire. Et Michael Jackson, c'est toujours ça, c'est-à-dire que ça fourmille de références, de signes adventices, d'images cachées, de cryptages, ce qui en fait un objet sémiologique très intéressant.
Oui, vous parlez aussi d'une pochette de disque sur laquelle apparaît le visage de Barnum,
oui.
Du cirque Barnum.
Oui,
ça me donne l'occasion de préciser que l'un des aspects extrêmement séduisants du livre, c'est que vous l'avez parsemé de palimpsestes, qui sont de courtes notices sur tel ou tel personnage qu'a connu ou non Michael Jackson, mais qui joue un rôle dans son univers, ou qui par un jeu de miroir répondent et permettent d'être comme des sondes lancées sur dans sa pensée et son monde
difficile
à définir.
Tout ce dont je parlais à l'instant, textuellement, je l'ai inscrit, il y a 9, j'appelle ça des palimpsestes, c'est-à-dire le texte sous le texte, qui sont des microbiographies de personnages par lesquels il a été influencé, marabouté, qu'il les ait connus ou non. Et le premier palimpseste, c'est Shirley Temple. Donc Shirley Temple, c'est la première enfant star qui est vraiment fabriquée par les studios, par la Fox. Et comme par hasard, dans Neverland, dans la demeure de Michael Jackson, il y avait une Shirley Temple Room. Donc il a lui-même accrédité l'influence. Fred Astaire, j'en parlais à l'instant. Elvis Presley, il en épouse la fille. Béla Lugosi, il y a un palimpseste qui est Béla Lugosi. Béla Lugosi était cet acteur hongrois qui est arrivé à Hollywood et est devenu une sorte de vampire officiel. C'est le premier Dracula.
Dracula éternel.
Dracula éternel. En plus, son accent hongrois, qu'il n'avait pas perdu, lui interdisait d'autres rôles. Donc le malheureux a été voué à vivre de ses canines, finalement. Et Béla Lugosi, bon, premier Dracula, mais dans Thriller, on entend la voix de Vincent Price. Des acteurs comme Vincent Price ou Christopher Lee, ça a été, si j'ose dire, la deuxième génération de Dracula officiel. Et donc, il y a un lien avec ce démonisme de carton-pâte, ce satanisme sur celluloïde, enfin, qui était le... Voilà. Donc, quand je dis que Michael Jackson est une maison hantée, ça porte aussi à identifier quels sont les fantômes qui l'abrite en lui. Et c'est un sabbat assez intéressant. Alors Barnum, oui.
Oui, Barnum, parlons de Barnum.
Barnum, c'est très intéressant, Barnum, parce que Barnum, bon, il fonde ce cirque qui est resté légendaire. Enfin, il y a même par antonomase, maintenant, on peut dire un Barnum ou... bon. Donc, c'était le plus grand cirque du monde. Il y avait trois pistes. Il y avait un chapiteau qui pouvait accueillir 3000 personnes. Il y avait des numéros avec 50 éléphants. Mais c'est aussi un montreur de monstres. Il y a une tératologie, là aussi, chez Barnum. Alors, il montrait une sirène, par exemple, qui était en fait un composite entre un corps d'orang-outan et une queue de poisson.
Oui, c'est un cabinet de curiosité.
Un cabinet de curiosité. Voilà. Il y a en fait la vieille tradition alors, européenne du cabinet de curiosité. Tom Pouce, hein, le célèbre nain, ou l'éléphant géant Jumbo qui faisait 4 mètres et qui a fini écrasé par une locomotive par mégarde. Bon, donc il y a ce zoo, mais en même temps Barnum, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un tourneur, c'est-à-dire un impresario, et il a organisé une méga tournée de Jenny Lind, le rossignol suédois. Jenny Lind, c'était la grande cantatrice des années 1850-1860. Elle jouait à guichet fermé, il y avait une hystérie qui s'organisait autour d'elle. Et une partie des bénéfices considérables dont disposait Barnum. D'abord, il s'est construit lui-même déjà, non pas son Neverland, mais un domaine qui démarquait, qui copiait une résidence royale britannique à Brighton. Donc il y a déjà le lieu clos. Et deuxièmement, c'était un partisan, c'était un pionnier de la lutte pour les droits civiques. Il a essayé de breveter un élixir pour dépigmenter les peaux noires, mais surtout, il a financé ce qu'on appelait les minstrel shows, c'est-à-dire les shows de ménétrels, qu'on a aussi appelés des vaudevilles. Les troupes de vaudeville étaient des troupes de danseurs et de chanteurs noirs, itinérantes, et qui mélangeaient les morceaux de danse, de chant, de claquettes, et qui sont regardés pour être un ancêtre du jazz. Donc c'est quand même très intéressant, Barnum, parce qu'il y a la monstruosité, il y a l'impresario de l'artiste star qui hystérise une époque, Jenny Lind, il y a les droits civiques, il y a la dépigmentation, et il y a la danse, et tous ces minstrel shows qui vraiment ont été la source du jazz. Alors Michael Jackson le savait, et ce qui est intéressant, c'est les reconnaissances explicite, c'est-à-dire que sur la pochette du disque, d'un de ces disques qui s'intitule Dangerous, il y a en bas un petit Barnum, donc la figure, enfin l'image de Barnum, qui a d'ailleurs sur sa tête le nain Tom Pouce, et ce tableau est au Grand Palais, on peut aller le vérifier des visous. Donc encore un cryptage, encore une complexité, encore un rapport de Jackson avec l'art. D'ailleurs, c'est quand on va voir l'expo au Grand Palais, il n'est pas sûr qu'elle soit tout à fait dans l'esprit de ce qu'aimait Michael Jackson. Parce qu'il a été un fécondateur d'artistes contemporains, c'est ce qu'on voit. Mais en fait, son goût se portait surtout sur les grands artistes de la Renaissance européenne, et singulièrement Michel-Ange. Je pense qu'il, même à travers ses disques, il rêve de faire, d'édifier des chapelles Sixtines sonores. Et il aimait aussi le peinture figurative de tradition ingresque et jusqu'aux peintres pompiers français.
Et on peut peut-être préciser que quand il venait en tournée en France, il se faisait faire des visites privées dans les musées ou les lieux lui permettant d'admirer ces peintures-là.
Absolument. Parfois, de façon un peu décalée, parce que lorsqu'il vient au Louvre, pour la première fois, visite privée, il demande à voir les Meissonniers. Mmh. Et on lui dit, ah non, ils sont au musée d'Orsay, il faut changer de rive.
Écoutez, c'est une erreur bien pardonnable quand même. Hein.
C'est une erreur pardonnable. Donc, il n'y a rien dans ce qu'il a projeté comme icône et qui évoque le cubisme, par exemple. La peinture, pour lui, au fond, s'arrête au pompier, en quelque sorte, ce qui n'a pas empêché, lui, de son vivant ou après sa mort, d'être cannibalisé. Et on voit dans l'exposition, en effet, Warhol qui l'installe dans sa galerie de légendes américaines. On voit Keith Haring qui s'en empare. Et jusqu'à Jeff Koons qui, lui, a statufié Michael Jackson avec son chimpanzé. Et on dirait une stèle ou un cénotaphe pour tombeau étrusque, mais plastifié. Il y a du kitsch, au fond, une tête de lecture de tout cela. Il faudra quand même arriver à la notion de kitsch, parce que c'est une reformulation contemporaine, avec des traits parfois inédits, car on peut aller très loin dans le mauvais goût revendiqué ou joué de façon ludique, qui correspond aussi à, si on veut, un âge démocratique. C'est-à-dire on pourrait s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'une idole, qu'est-ce que c'est qu'une icône mondiale en relation avec le goût d'une certaine époque. Et on l'a déjà dit, il a surjoué la vie comme parc d'attraction et la projection de soi comme... il y a un devenir... comment dire, il y a presque un devenir dessin animé de Michael Jackson. Il se construit comme Mickey, si on veut, ou comme... Ça avait commencé quand il a 13 ans, ça c'est très frappant. Quand il a, donc au moment du premier succès, de l'avènement des Jackson 5, un dessin animé et leur est consacré sur le modèle Hanna-Barbera, des dessins animés comme La famille Pierre à feu ou Les fous du volant que nous avons vu aussi en France.
À la même époque.
Et là, ce sont les Jackson 5. Alors qu'est-ce que ça peut être quand on a 13 ans de se voir muséifié en quelque sorte, c'est-à-dire en tout cas devenir un toon, devenir une créature de dessin animé qui par définition est immarcessible, ne va jamais vieillir. Donc vivre, c'est pour lui, ça sera aussi s'éloigner de cette image éternelle, comme celle du Blanche-Neige, de la Blanche-Neige de Walt Disney ou du Pinocchio, et être en dissonance graduelle avec cette image idéale de lui qui est fixée comme dessin animé. Et donc dans sa vie, il y a aussi une projection de soi sur ce mode-là, mais d'une manière désespérée, parce que il a en lui cet alien qui s'appelle un adulte, et c'est le combat d'une vie au fond, et c'est là qu'on retrouve ange et démon.
Oui, dans cette ambivalence, il ne cesse de se projeter, de faire malgré tout sa promotion, ça fait partie de son métier. On peut ressentir à certains moments, de façon comme contrepoint, une sorte de haine de soi finalement. On se demande si ce garçon ne se supportait pas, à force de vouloir sans cesse... être un autre, et puis encore un autre, et encore un autre, de façon continue. Du reste, c'est, je crois, ce qu'ont pensé un certain nombre de membres de la communauté noire, le voyant devenir de plus en plus blanc, on ne lui a pas reproché d'avoir une haine de soi, de ses origines.
Bien sûr, parce que comme c'est un agrégat d'identités multiples, il peut être revendiqué par plusieurs communautés, en quelque sorte. Et comme aux États-Unis, la pensée communautariste est très structurante et très forte, en effet, il lui a été reproché Mais encore plus récemment, post-mortem, j'écoutais l'autre jour un Zadie Smith qui dit « J'ai un problème avec Michael Jackson parce qu'il a été, quand j'étais petite, une figure de la Black Pride, de la fierté noire. Et puis, ces dépigmentations, ces rhinoplasties, cette mutation, peut-être cette haine de soi, ou en tout cas, le fait qu'il soit allé vers autre chose que la défense de la communauté, trouble un certain nombre de bigoteries. » Et déjoue pour le coup les clivages communautaires qui sont une des façons que les Américains ont de vivre leur propre culture. Là encore, il est transversal. Et là encore, il est subversif. Et là encore, il agrège et il disperse en même temps diverses identités. Enfin, je vais être un autre. C'est un artiste assez rhizomatique au fond. Si on allait vers la notion de leusienne de rhizome, c'est pas un arbre avec des racines fermes qui poussent vers le ciel, c'est plutôt un bourgeonnement souterrain sous la forme du connecté, du rhizome. Mais ce qui en fait aussi finalement un précurseur des réseaux, d'un univers de réseaux. C'est à lui seul un homme réseau, en quelque sorte. Alors c'est compliqué, les réseaux, quand on veut s'en tenir aux assignations identitaires. Il déjoue des identités, il les déconstruit. C'est un Derridien, finalement. Peut-être que Jacques Derrida, il était en studio avec Quincy Jones.
Dans ce trop-plein d'identités, c'est probablement précisément ce qui est intéressant, qui en fait un personnage foisonnant, c'est que sa façon de s'extraire de son identité initiale n'est pas de se gommer, qu'on pourrait pas le croire, en focalisant son attention sur son blanchiment de peau. C'est pas un trop-plein. Il ne cesse d'agréger, de se remplir, jusqu'à peut-être perdre la raison.
Oui, il y a sans doute un... Il devient bon, et il y a commencé après ces affaires de mœurs, ces imputations qui ont été lancées contre lui et qui ont contribué en effet à sataniser en quelque sorte la figure de Michael Jackson. C'est-à-dire que quand l'ami des enfants, le côté disneyien justement, peut devenir ou est soupçonné d'être un prédateur d'enfants, évidemment la légende rose devient un conte noir. Et ce qui est intéressant, c'est que chez quelqu'un qui voulait tout contrôler, finalement, la morale de l'histoire, c'est que tout explose. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, qu'est la part non fabriquée de Michael Jackson. C'est-à-dire que dans un univers où tout était si concerté, dans un monde de communication, dans un monde d'attaché de presse, dans un monde où chaque projection, chaque apparition de soi est millimétrée et calculée, à un moment, il y a la part maudite. Il y a une part maudite chez Michael Jackson qui est précisément ce qui ne peut pas être contrôlé, ce qui est plus fort que lui et qui va en fait vers un processus d'autodestruction. Hein. C'est un des cas d'autodestruction américaine après un feu de joie. Il y a presque un côté, si on veut, Fitzgeraldien chez il n'y a pas de second acte dans une vie d'Américain. Là, il y a eu beaucoup d'avatars, et puis à un moment, il y a la chute, et c'est ça qui en fait un personnage fascinant, scorsésien peut-être, finalement. C'est pas par hasard que Scorsese, enfin, en tout cas, a filmé un de ses clips, et c'est bien ça aussi qui en fait la fascination. C'est-à-dire que le monstre du lac, le monstre du lagon, soudain prend possession des intérieurs de Michael Jackson et on commence avec Bambi, on finit avec Lovecraft, comme je le disais tout à l'heure.
Une sorte d'avertissement finalement, ce Michael Jackson.
Vous voulez dire pour quiconque aurait la prétention d'être à la fois Rodolphe Nureyev et Stevie Wonder, c'est-à-dire là encore
si,
une.
Si on s'était tenu à ça, ça va.
Eh ben, c'est-à-dire que quand on est multiple, quand on est pluriel, quand on est ouvert à la à la dissémination et au trouble identitaire. Évidemment, tous les golems, enfin toutes les créatures qui se pressent en vous ne sont pas forcément bienfaisantes. Donc il emblématise aussi une certaine lutte intérieure entre le bien et le mal, si on veut. Ce en quoi il rejoint des figures bibliques, des figures littéraires et un certain nombre de fantômes de la littérature américaine. C'est à certains égards, c'est un Moby Dick qui est en lutte avec sa propre baleine, en quelque sorte. On pourrait aller jusque-là. D'ailleurs, il y a une baleine dans Pinocchio, dont Pinocchio est expulsé, mort à la fin, et renaît sous la baguette magique de la fée. Mais le pouvoir des fées a des limites. Ce serait un peu ça, au fond, la moralité de Michael Jackson, c'est que le pouvoir des fées a des limites, même quand on a voulu construire sa vie comme une féerie.
Et la postmodernité a ses dangers.
La postmodernité a ses dangers parce qu'en effet, la démultiplication erratique, le fait de vouloir jouer sur tous les claviers, le fait de vouloir gagner, finalement, dans toutes les parties, si on joue 7 ou 8 parties d'échecs à la fois, il se peut qu'on en perde une, puis deux, puis toutes. Mais ça, c'est l'oubris, justement, ce dont vous parliez au début, c'est qu'il y a une mégalomanie, il y a un prométhéisme, en fait. Il y a un prométhéisme jacksonien. Il veut voler le feu du funk pour le donner aux hommes, et puis ça se passe moins bien. Voilà. Une chute.
Une sorte de presque de figure, je pèse mes mots, c'est une figure christique de la postmodernité, oui, et de ses dérives.
Oui.
S'immolant pour...
Oui, absolument. Il y a
peut-être pas pour acheter ses péchés.
Il y a une sorte d'immolation symbolique, mais qui se fait en dollars, en royalties. Mais il y a, dans l'exposition qui va tourner d'ailleurs dans le monde entier sur Michael Jackson et les artistes, il y a un tableau de David LaChapelle qui le représente comme un ange, donc en train de vaincre un démon. C'est quand même... et l'ange a des ailes blanches. Et en voyant le tableau l'autre jour, je me disais, oui, il y a aussi une figure icarienne possible de Michael Jackson. Il a des ailes d'Icare, et puis il s'approche trop près du soleil, et il est foudroyé. Donc il y a toutes sortes de strates, en fait très anciennes, hein, mythologiquement très anciennes, et plus récentes, qui se conjuguent dans ce personnage et sa destinée.
Destinée à la fois contemporaine ou post-contemporaine, et donc éternelle. En tout cas, on comprend mieux pourquoi il nous parle.
Il nous hante. D'ailleurs, un des avatars de Michael Jackson qu'il avait travaillé, c'est la statue. Il y a un de ses albums intitulé History, et la couverture, c'est une sorte de colosse de Rhodes. C'est Michael Jackson en géant, avec des hélicoptères qui tournent autour de lui. Et à l'occasion de la sortie de cet album, dans les capitales du monde, une douzaine de statues géantes en carton-pâte avaient été érigées. Donc il y a une statue, c'est au fond une créature, enfin c'est l'île de Pâques en quelque sorte. C'est pour faire de la promotion, on transforme l'artiste en statue de l'île de Pâques qui apparaissent ici et là. Et la statue maintenant elle est figée, mais il est intéressant d'aller analyser le marbre ou le carton pâte parce que c'est un mélange des deux.
Voilà, c'est donc ce que notre époque aura laissé aussi, des statues en carton-pâte de Michael Jackson.
Mais avec du marbre.
Mais avec du marbre. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que, comme vous l'avez dit, il hante nos pensées. Il est comme un miroir peut-être déformant, ou au contraire très précis des dérives névroses et très géniaux aussi de notre époque. Tout cela à la fois, car c'est bien ça Michael Jackson, oui, de réunir le tout.
Si on voulait juste couper court à la complexité, parce que les Français sont des esprits analytiques et pervers, mais il y a aussi une autre façon de résumer ça, c'est que quand vous entendez Billie ou Billie Jean, la réponse se fait par les pieds, par le cortex, par la danse. C'est quand même un danseur. C'est un danseur nietzschéen qui nous fait danser.
Merci pour cette magnifique conclusion. Pour poursuivre la réflexion, je ne peux qu'inciter nos auditeurs à se plonger dans Vie et mort de Michael Jackson par Marc Lambron de l'Académie française. Et voilà, de poursuivre ainsi cette chasse aux fantômes qui habitent notre vie depuis que nous avons entendu au moins Thriller.
Merci à vous.
Thank you.